RMC.
PLM, tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. On a le droit d'exister un petit peu ou pas?
RMC, Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot.
Oh mon dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, là, Daniel Riolo, bonsoir. Pierre Ducrot, bonsoir.
Bonsoir.
Sommaire à venir, Lucas Touzard en direct tout de suite après le 2-2 de Lyon face à Offenheim.
Qu'est-ce qui se passe à 2-0, mais à 2-1 surtout, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans les têtes sur le terrain pour que tout s'effrite?
À chaud comme ça, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais on n'a pas pris conscience que dans un match de foot, rien n'est jamais fini. On se pensait peut-être trop beau à la mi-temps. Et tout simplement, voilà, on laisse revenir l'adversaire bêtement comme ça. Donc voilà, c'est des erreurs inacceptables à ce niveau pour aller chercher une qualif, tout simplement.
Vous avez vraiment passé à côté de quelque chose de grand ce soir. Hein.
Voilà, on savait qu'on avait à cœur de se rattraper ce soir, et là, voilà, c'est tellement rageant de concéder un match nul alors qu'on avait le match en main.
Merci Lucas.
Les autres réactions. Voilà la première réaction du soir de Lucas Touzard. Évidemment, on va analyser ce match de Lyon dans le détail avec Daniel et Pierre dans quelques instants. 2-2 entre Lyon et Offenheim. Dans le même groupe, City a explosé le Shakhtar 6-0. Je fais un petit point classement quand même, parce que mine de rien,
ça s'impose.
Mine de rien, Lyon garde évidemment toutes ses chances de qualif.
Oui.
Parce que City a 9 points, Lyon en a 6, Offenheim en a 3.
Ouais.
Et le Shakhtar en a 2. Les prochains matchs des Lyonnais, c'est Lyon-City, et après ils terminent au Shakhtar qui peut-être sera déjà éliminé. Allez, à voir ce qui va se passer.
Même dans le pire des cas, que Lyon ne prenne qu'un point ces deux matchs. Imagine le pire. Perdre contre City, tu peux l'envisager. Et Shakhtar, les conditions font que souvent c'est compliqué. Allez, tu ne prends qu'un point sur ces deux matchs. T'es à 7 points.
Ouais.
C'est ça? Ça peut suffire, quoi. À Offenheim, Shakhtar, ils doivent ça peut se neutraliser. Oui, Offenheim,
si
City.
Si tu fais un nul contre le Shakhtar, ça veut dire que au maximum, 6 points.
Je vois pas.
S'ils ont gagné contre.
Franchement, que Lyon se qualifie pas, c'est qu'ils perdent les deux matchs, quoi. Donc ils perdent les deux matchs et que.
Et encore. C'est que même en perdant les deux matchs.
Oui, mais c'est pas encore fait.
Tu peux encore te qualifier.
Ouais, bien sûr.
Et bon, avec ce qui se passe derrière. Bon, à voir. Restons en tout cas sur le match de ce soir.
Après, Offenheim, il leur reste le Shakhtar à domicile.
Offenheim, je vais te dire.
Il y a un Shakhtar à domicile. Allez, part dans l'idée qu'ils prennent 3 points. Et après, ils vont
voilà, l'avérage particulier, c'est Lyon qui est devant.
Oh, franchement, Lyon, ils vont passer.
Oui, normalement.
Ce serait dingue. Déjà, là, ce soir, ils ont beaucoup, beaucoup gâché. S'ils gâchent la qualif, là, j'ai quand même du mal à y croire, quoi. Je sais pas.
Alors, je précise qu'on aura également tout à l'heure avec nous Simone Rovera et Julien Laurence, parce qu'il y a eu un Juve Manchester de feu ce soir, où la Juve a eu de nombreuses occasions, mené 1-0 et a finalement perdu 2-1 avec Mourinho qui a chambré tout le stade à la fin du match.
Sans de hold-up, non?
Je crois qu'on peut le dire comme ça.
Mourinho chambre des fois comme ça quand il
Il s'est foutu au milieu du terrain, il a chambré.
De la Juve, oui.
C'est où qui s'était fait chambrer au bord d'un match, au bord d'un terrain? C'était en première ligue ou en Ligue des Champions il y a pas longtemps?
Tout le monde a dit, mais c'est scandaleux de faire ça à Chelsea.
Et quand il a failli se battre avec l'adjoint en face.
Mourinho, mais bon, quand tu le fais toute ta carrière, à un moment donné, il y en a qui te le rendent aussi.
Voilà, ce sera
là,
tout à l'heure.
Et là, la Juve, il l'a fait très fort en com. Lui s'affiche comme interiste à vie chez l'un des le plus grand rival de la Juve, l'Inter. Il vient au centre du terrain et puis il est chambre. C'est du Mourinho, quoi.
Lyon, 32 saisons vous attend. On vous attend sur Direct Studio, sur le hashtag RMC Live, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup à dire sur les Lyonnais ce soir. Avant d'accueillir Pierrick, les gars, rien n'est réglé à Lyon. On voit encore une équipe qui est à 10 contre 11, n'est pas capable de plier un match. Alors, est-ce que les responsabilités sont plutôt du côté des joueurs qui manquent peut-être de maturité, je ne sais pas. Ou bien est-ce que Genesio aurait dû faire des changements beaucoup plus vite à 10 contre 11? Est-ce qu'il a laissé faire et de pas être trop longtemps sur le terrain? Enfin, quel est le premier responsable de cette mini remontada?
Au bout d'un moment, tu vois, moi, quand il faut critiquer Genesio, tout le monde sait que je suis pas le dernier. Enfin bon, là,
tout ce qu'il faut pour plier le match.
Il démarre le match. En plus, je trouve que il se met dans la mode. Pas de problème, t'as le droit d'être tendance. Tu joues à 3 derrière. Ouais. Il se trouve que quand tu vois le match, le début de la rencontre ou la première période, tu te dis comment ne pas y avoir pensé avant pour Lyon, quand t'as un latéral comme Ferland Mendy et que de l'autre côté t'as Raphaël, ouais. T'as l'impression que c'est des latéraux qui étaient faits pour ça.
Sauf que les trois dans l'axe ont mis 20-25 minutes à se mettre dans le match quand même. Mais bon, c'est pas anormal quand tu débutes dans un nouveau
système. T'as le sentiment quand même que c'était le schéma qu'il fallait. Bon, il se trouve que t'as une équipe en face qu'on l'avait vu déjà depuis le début de la Ligue des Champions, ça joue très très bien au ballon, mais c'est peu efficace. Tu les punis, tu mènes, t'as 2-0, ils sont à 10, t'as tous les événements pour toi, tous les faits de jeu sont pour toi, tout va bien, t'as 1000 occasions, les mecs ils marquent pas devant avec toutes les occasions qu'ils ont. Là ce soir, je suis désolé, tu peux pas taper sur Genesio. Franchement, c'est pas honnête d'aller taper
dessus
ce soir.
Pierre, t'es d'accord?
Pas ce soir quoi. Il y a des soirs tu peux, mais pas là.
Les mecs,
ils ont le droit de marquer les buts, Pierre.
Je suis d'accord.
Il a le droit de se bouger le cul à un moment.
Top Edouard G avec Nabil Fekir. On y va en direct à Lyon, les gars.
En marquant assez rapidement. Prends mon nom par deux buts d'écart à la mi-temps. Après, voilà. Après expulsion, je pense qu'on a baissé un peu d'intensité, un peu de rythme. Voilà, on leur a donné un peu de confiance tout simplement, et ils ont réussi à revenir et c'est triste pour nous.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on est sur le terrain? Il y a 2-0, tout va, à 10 contre 11, il y a un but et finalement tout s'effrite.
Ouais, c'est un peu notre problème en ce moment. Voilà, on sait que quand on prend un but, on n'est pas serein derrière. Voilà, c'est comme j'ai dit, c'est pas une bonne soirée pour nous ce soir. Mais voilà, on se répète un peu, mais voilà, on va essayer de corriger ce qui n'a pas été encore ce soir.
Justement, ça se répète, c'est pas inquiétant?
Un petit peu. Après, je pense que voilà, on a fait un bon match malgré tout, même si voilà, on repart pas avec la victoire et on est tous déçus. Mais voilà, faut continuer dans le même état d'esprit qu'on a mis avant ces deux buts là.
A priori, ils ont quand même pas fait un bon match malgré ce que dit Nabil Fekir.
Ce que j'allais répondre à Daniel, c'est que j'étais d'accord sur le fait qu'ils avaient pas été la première période des Lyonnais. Ils sont efficaces dans les deux zones de vérité, c'est-à-dire que les rares actions de Fenham, ils défendent très très bien leur but, et les occasions qu'ils ont, ils sont tueurs et ils marquent les deux buts qu'il faut marquer. La deuxième période, c'est la même chose dans le jeu, c'est-à-dire que c'est honnêtement pas terrible.
Donc ça veut dire qu'en fait,
sauf que la deuxième période, ils sont plus du tout efficaces ni offensivement parce qu'ils ratent,
donc,
je sais pas, peut-être 10 occasions. Et défensivement, ils prennent les buts facilement.
Ce que tu dis, si tu me permets une traduction et tu me corriges si je me trompe, tu veux dire Lyon contrôle rien en fait.
Moi j'allais te dire même pire, Lyon avait réussi à 11 contre 10 à rester à 2-0 ou à 2-1. Ça aurait été une fois de plus, on aurait peut-être une tendance à analyser par le résultat.
Et
ça aurait été l'arbre qui cache la forêt, dans le match, Lyon ne maîtrise jamais son sujet.
C'est pour ça que cette équipe est absolument paradoxale entre ce qu'elle produit et ses résultats, parce que ce qu'elle produit est pas bon, mais ses résultats par rapport à ce qu'elle produit sont très positifs. Le 2-2 contre le Shakhtar, il est arraché, franchement, dans le jeu, ils sont en dessous. Le 2-2 à Hoffenheim au match aller,
3-3.
C'est 3-3. Oui, 3-3. Pareil. Wow. Là, ce soir, bon.
À City, c'était très bon dans le contenu, dans le plan de jeu, dans le plan de jeu.
Oui, mais parce que c'était particulier.
Oui, mais ils l'ont bien fait.
C'est ce genre de match, c'est à part. Parce que finalement, ça ne te donne aucun réel enseignement. Voilà. Et c'est la même chose en championnat. En championnat, ils sont pas largués. Ils avancent pas, ils font des matchs pénibles, mais on sait très bien que sur une deuxième partie de saison, dégager d'autres matchs et tout, ils ont l'effectif pour arriver sur le podium. Et au final, tu diras quoi? Ligue des Champions, très franchement, sauf catastrophe.
Ils vont se
calmer. Ils avaient un groupe à leur portée, ils vont aller en 8e. 8e plus podium. Oh là, c'est à l'arrivée. Saison réussie. Au revoir tout le monde.
Tu peux le refaire ta sirène?
C'est quoi une trompette de stade, voilà, c'est la corne.
Alors moi je reviens quand même sur Genesio. Pardon, mais quand t'es à 10 contre 11, que tu vois que t'as un Depay tu joues à 10, Depay est nul ce soir, tu peux tenter un truc là, les mecs ils sont obligés de gagner, ils sont éliminés.
Le problème c'est que déjà t'es pas loin de le perdre.
Ouais, mais bon,
là, là non, mais on s'en fout, je veux dire.
Là, honnêtement, moi, j'ai cru qu'il allait rentrer. Alors, on en a parlé pendant le match avec.
T'as Traoré, tu peux aller les tuer là.
Non, mais même, tu sais quoi,
franchement, il pouvait les tuer sans penser à tous ces changements.
Parce qu'en fait, ils jouent à 10 contre 10.
Non, mais tu fais entrer les occasions qu'ils ont. Justement, ça, tu peux.
Ou alors, tu passes à 4, tu mets un milieu. Voilà.
Exactement. Là, d'accord.
Là, je peux faire quelque chose.
Là, je te rejoins. Ouais. Non, mais
c'est ce qu'on a dit pendant le match.
À 11 contre 10, putain, tu peux pas te faire.
Et là, Genesio, il fait un changement finalement subi, c'est-à-dire Fekir blessé, c'est là qu'il y a le changement et il prend pas les choses
en main. Il va bien, on va rassurer les.
Oui, enfin bon, on voit bien qu'il était cramoise, quoi. Fatigué, il peut pas rester sur le terrain. Bref, moi,
oui, un changement qui s'impose.
Je pense quand même qu'il aurait pu agir plus tôt. Pierrick au 32-16.
Ils ont pris deux buts.
Est avec nous.
2-0 en étant à 10 contre 11. C'est bien ça.
Ah, c'est bien ça. Oui, c'est ça.
J'ai besoin de me le répéter 10 fois.
Salut Pierrick.
Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de me dire non, le carton, il est
venu après.
Non, c'était avant.
Pierrick était avec nous à la mi-temps. Pierrick. Il était plutôt courant à la mi-temps, Pierrick. Et puis alors, on a été coupé parce que le match a vite repris. Bon, une heure plus tard, Pierrick.
Pierrick et son pote, parce qu'ils étaient deux.
Les deux là, c'est tout l'inverse.
Au fond du canapé.
Honnêtement, c'est voilà, on est au fond du trou même. C'est même plus le canapé là. C'est Lyon quoi. C'est frustrant comme d'hab. C'est on fait tout et n'importe quoi. C'est voilà. Si on fait tout en première mi-temps, on est bien. On est dans le match. On est réaliste. On n'a même pas tant que ça d'occasion. On mène de deux buts. C'est pratiquement inespéré. Après, on en a un peu plus et on les met pas au fond. Et puis deuxième mi-temps, comportement de Starlet, c'est on joue à moitié, on est trop tendre devant le but, genre on joue presque facile, derrière ça va plus au contact. Avant il y avait que Memphis qui pressait pas, dès que Dembélé rentre, il y avait deux attaquants qui pressaient pas, donc forcément quand les défenseurs derrière ils peuvent relancer comme ils veulent, c'est toujours un tout petit peu plus simple déjà. Donc ils facilitent les choses de Fenheim et Fenheim ils sont pas fait prier, hein. Ils ont eu deux occasions très franches, ils les ont mises au fond. Voilà, c'est mérité pour eux. Hein. On a rien d'autre à dire. Lyon ils ont tout fait pour perdre la qualif là et ils l'ont bien fait.
Voilà. Non mais ils la perdront pas. Le truc c'est que la qualif ça va.
Non mais ils perdent la qualif qu'ils auraient pu avoir ce soir.
Ah oui,
parce que ce soir tu aurais pu avoir 6 points d'avance et c'était plié. Quoi.
Là c'était plié. Déjà que là vu les matchs qui restent à jouer, t'es quand même bien.
Vous y pensez pas.
Après, c'est pas complètement
la prime.
Ah oui. Le truc.
Il y a qu'un ex-foot 2 pour penser à la prime. On est romantique.
Sinon, vous y penseriez.
Il fait bien de le dire parce que souvent, ça doit nous remettre les idées en place.
Et puis c'est une motivation quand même.
Pour considérer que les joueurs, si Pierre le dit, c'est que les joueurs y pensent. Il a raison.
Après, ça dépend. Tu y penses pas forcément honnêtement pendant le match, mais quand c'est fini,
l'important c'est d'y penser avant.
Et c'est combien sur le genre de match?
De quoi?
T'as une idée de combien ça peut être?
Ça dépend, mais en général, on est direct, c'est en termes de,
non, c'est en termes de. Tu programmes au week-end avec jet privé et tout, dans la foulée.
En termes de points, tu vois, en termes de points, s'il y a qualif ou des points que t'as pris,
ça paye tes vacances, ça prime?
Ah oui, je pense que
tu vas un week-end, une semaine.
Quand tu te qualifies en phase de poule et que
après, ça dépend des vacances.
Tu pars bien en vacances.
Si c'est Punta Gala au mois d'août, sans problème.
Non, tu pars très bien en vacances avec ça.
Par contre, si c'est les Seychelles à Noël, c'est un peu plus cher.
C'est un peu plus cher.
Bien sûr. Bon, Daniel plaisante avec moi avec Punta Cana, mais il m'a demandé des plans pour y aller après quand même.
Pas
la même période, j'avoue.
Et pas à cet endroit-là. Désolé.
Pierrick, un truc à rajouter.
Après, Daniel.
Je voulais dire aussi si vous parliez des primes et tout, mais on peut parler aussi de quand on voit les autres performances des clubs français en Ligue Europa ou en Ligue des Champions. À part Paris, le Paris Saint-Germain, honnêtement, on voit Bordeaux, ils sont pas capables de gagner ou de faire un match nul.
Lyon peut très bien se retrouver avec la seule équipe qualifiée sur 6. Hein.
Mais le truc, c'est que t'es en train de te...
Pierrick,
t'es en train de te morfondre, et je comprends que tu le fasses, parce que effectivement il y a pas mal de désillusions, mais encore une fois le grand paradoxe c'est que tu vas être en 8e, il y a de fortes chances en tout cas, et que il y a tout pour aller choper le podium quand même quoi.
Et comme l'année dernière, on fait pas une très belle saison dans le jeu et on va finir sur le podium.
Après tu peux même avoir un bon tirage en 8e.
Les gars, on est partout, c'est la Ligue des Champions sur RMC, c'est magique. Mohamed Bouafsi est avec Paul Pogba à Turin, on y va.
Qui ont eu beaucoup d'occasions, ils les ont pas mis au fond et voilà, on a profité. Deux coups de pied arrêtés, deux buts, donc on sait que c'est des matchs où ça joue sur des détails et on a utilisé ça pour gagner.
Paul, on peut retenir toutes les occasions ratées de la Juventus, mais on peut retenir aussi votre solidité, votre courage. C'est ça aussi qui résume votre match ce soir, votre combativité.
Ouais, c'est vrai qu'on l'a montré les dernières semaines. On était prédéterminés. On a montré que voilà, le match c'est 90 minutes. Et on est sur une, je pense, sur une bonne lancée. Maintenant, après, voilà, faut continuer dessus et il faut aussi bien commencer les matchs parce que les débuts de match sont assez lents. Voilà, on se fait un peu rentrer dedans, mais voilà, on va travailler sur ça et on va bien revenir. Mais voilà, on reste quand même content du résultat et de la performance du groupe.
Paul, quel a été le discours de José Mourinho avant le match pour tenir cette équipe de la Juve?
Ah, je pense qu'il faut lui demander. Faut lui demander. Non.
Vous avez gagné, c'est pour ça que je le demande.
Il nous a juste motivés il nous a dit de faire attention, bien sûr, au coup de pied arrêté et faire attention. On sait que c'est une grande équipe, mais voilà, en les respectant, voilà, on doit jouer aussi, notre football et tout lâcher sur le terrain, tout en les respectant, mais aussi, voilà, nous aussi, on reste Manchester United.
On vous voit différent depuis quelques semaines, on vous voit beaucoup plus haut sur le terrain avec Manchester, bien évidemment. C'est un rôle qui vous met beaucoup plus à l'aise, Paul?
Eh bien sûr, non, c'est toujours. Je me sens à l'aise aussi de jouer un peu plus haut parce que je peux faire ma course ou je peux créer un peu d'espace, je peux frapper ou faire une passe. Et voilà, on reste quand même un peu plus haut. Et le 4-3-3, c'est vrai que voilà, j'ai pas besoin de redescendre pour récupérer des ballons. Voilà, ça reste un choix du coach et je pense qu'on est bien aussi. Je m'entends très bien avec Anthony et Luc sur le côté. Donc voilà, on joue sur ça.
Bon, pas la dernière question. Si je vous chante Quanto è forte Paul Pogba, Quanto è forte Paul Pogba. On l'a entendu résonner ce chant. Votre tour, les applaudissements, on imagine que vous êtes un homme heureux et fier ce soir.
Non, bien sûr. C'était très beau. Non, pour moi de revenir ici, entendre les supporters crier mon nom. Malgré que je joue pour Manchester United, mais voilà, ils ont pas oublié les belles années qu'on a passées ensemble et voilà, j'ai beaucoup de respect pour ce club et pour ses fans aussi.
Merci beaucoup, Paul.
Merci.
Voilà, Paul Pogba, Manchester United a gagné 2-1 ce soir à Turin, on y reviendra tout à l'heure. Les gars, Jérôme Bretagne nous rejoint, il est à Lyon, il était bien sûr sur place pour commenter le match. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir les gars.
Salut
Jérôme, on tentait d'expliquer le pourquoi du comment. On disait que finalement Lyon a subi quasiment presque tout le match en fait.
Moi j'ai entendu le commentaire, il le sentait un peu venir Jérôme. On sentait dans sa voix que...
On l'a tous senti ici aussi. Hein.
Moi j'étais pas avec vous, j'étais avec lui. Désolé.
Si tu préfères la télé que la radio, je le dis. Mais
moi j'écoutais, je regardais la télé.
On l'a dit à la mi-temps, on a annoncé presque le premier et on leur a dit...
Mais tant mieux si vous l'avez tous senti, ça me ravit de le savoir les amis.
Non mais ça veut dire que tout le monde le sentait quoi.
Ouais non mais on pouvait sentir par rapport à... C'est un match de football, ça reste toujours je dis pas qu'ils ont pas respecté l'adversaire mais il faut respecter le jeu et quand t'as autant d'occasions dans le match que ça soit à travers des occasions sur des contre-attaques plus que sur des attaques placées, que t'as des faits de jeu qui sont pour toi avec cette expulsion qui est quand même avantageuse et dure à accepter pour les Allemands, mais elle mérite d'être là. Tu te retrouves à 11-10, que tu mènes 2-0, que t'as plein de situations pour mener 3-0, que tu les rates, que sur un fait de jeu, du moins cette blessure d'Ndombele, que tu prennes le but sur déjà une erreur d'alignement de la défense où ils sortent pas assez vite. Derrière, à 2-1, ils pouvaient tous passer. On avait la sensation qu'ils pouvaient marquer de nouveau ce troisième but, mais aussi qu'ils pouvaient en encaisser. Et que à chaque fois que les Allemands arrivaient à se projeter assez vite sur le but de Lopez, eh ben ils les mettaient en difficulté. Donc ça, c'est problématique pour les Lyonnais. Mais après, encore une fois, s'ils sont réalistes sur le but de Baumann, bah les Lyonnais ils gagnent ce match et on n'en parle plus quoi.
Ce qui n'aurait pas été complètement comment dire mérité, que je sais pas, et pourtant ça pouvait prendre la tournure d'un 3-0 au vu de la tournure de la rencontre entre ce que Hoffenheim rate au début, leur domination collective, la réussite de Lyon, parce que le but de Ndombele, il rate la frappe, hein, ça passe dans les jambes, ça cogne, ça rentre, je crois que le match, c'est pour ça que je disais que Lyon ne contrôle rien dans ces matchs, c'est que c'était tellement ouvert qu'on a l'impression qu'il pouvait tout se passer. T'as l'impression, à un moment, je me suis dit, bon, ils vont gagner 3-0 ce match-là, les Lyonnais, après ce qui se passe. Et ça se termine à 2-2.
C'est pour ça qu'en deuxième période, vers la 70e,
ils pouvaient même perdre 3-2 si le dernier centre trouve la tête comme il faut de l'attaquant. Non, mais c'est trop fou, les matchs.
C'est un peu de contrôle quand même. 15e, tu ne changes rien tactiquement à un moment donné pour avoir plus de maîtrise dans ce match.
Voilà.
Le rôle, enfin,
alors que
le
jeu départ de Lyon est plutôt bonne.
Oui, mais le jeu de Lyon en seconde période, c'est pas de tomber justement dans ce match un peu foufou où ça va tous les coups. C'est de fermer, de maîtriser et de jouer les 2-3 coups qui va te rester.
Profitons de la présence du plus grand gaucher de l'histoire du football avec nous. Et Jérôme, est-ce que Genesio aurait dû faire des changements tactiques, repasser peut-être à une défense à 4 quand ils sont à 10, faire rentrer un milieu de plus, sortir Depay beaucoup plus tôt qui faisait rien, qu'est-ce que t'en penses?
Bah c'est sûr que les changements tardifs et le fait qu'il ait rien changé tactiquement, ça lui a pas donné raison, parce qu'à l'arrivée il concède ce 2-2 dans les dernières minutes. Mais pour éviter que ça se passe, en effet, il aurait dû s'adapter bien avant, à la 55e, 60e, une fois que les Allemands sont réduits à 10 contre 11. On a senti des signes de fatigue déjà de la part de Fekir, qui avait du mal à enchaîner les efforts alors qu'il a été très bon pendant 50-55 minutes. Donc c'est pas une tare en soi de le sortir à la 60e. Après, Memphis Depay, il y a eu que des choix malheureux aujourd'hui, où il s'est toujours fait contrer dans le dernier geste, où la dernière passe elle est pas au rendez-vous, soit il est tombé dans des dribbles en perdant le ballon. Bien sûr que ça, il peut éviter que ça continue encore sur la dernière demi-heure et le sortir avant. Il a des choix, il l'a fait de façon sur la fin de match, en faisant rentrer Traoré, en faisant rentrer Dembélé. Je pense qu'il aurait pu s'adapter. Après, le côté je change tactiquement, moi j'ai bien aimé vraiment les hommes de côté, surtout Mendy qui a toujours apporté du danger, et ça il fallait s'en servir, et ils s'en sont moins servis, parce que j'ai trouvé que Mendy était beaucoup trop bas sur la deuxième mi-temps, et surtout sur la fin de match, où au lieu de fonctionner en 3-5-2, ils ont fonctionné plus souvent en 5-3-2 quoi, ou en 5-3-1-1. Donc ça c'était problématique pour le jeu lyonnais. Mais encore une fois, il y a ces changements tardifs, il y a le manque d'application de certains joueurs d'un point de vue offensif, mais on peut pas lui donner tort non plus. Il a peut-être subi le jeu, comme disait Daniel, où les Allemands ont plus de maîtrise dans le jeu. Mais après, il faut revoir toutes les actions lyonnaises. Il y en a un paquet d'actions lyonnaises, et je pense que les Lyonnais auraient dû faire la différence.
Merci Jérôme.
Merci à vous.
Bonne soirée. Ciao. Allez, on va en dessous de Jérôme, dans les entrailles du stade. Jean-Michel Aulas est avec Edouard G. On écoute.
Une victoire qui nous aurait mis dans des positions encore beaucoup plus favorables.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête de vos joueurs? 2-0, tout va bien, visiblement. 2-1, un petit grain de sable, et puis finalement, tout se grippe.
Ouais, bon, je pense qu'il y a... C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte et tout le monde le fait remarquer, où bon, les critiques sont quelquefois dans les médias un peu sévères par rapport à la réalité, et je pense qu'il y a un manque de confiance, et à partir de là les choses peuvent se dérégler très vite. Bon, c'est vrai aussi qu'il faut très peu de choses. Bon, je regardais les images du deuxième but, bon, sur la blessure de Tanguy, le ballon est sorti nettement, entièrement, sur la touche, et puis on prend le but. Voilà, on a tiré aussi beaucoup sur la barre. Je crois qu'on a 29 tirs, donc bon, certains imaginaient qu'on n'avait pas assez d'occasions de but, et donc là c'est un manque de réalisme qui fait que après on s'est mis en difficulté, et même si on reste largement devant, et encore une fois avec un goal average qui sera favorable en cas d'égalité avec Hoffenheim, c'est trop bête d'avoir laissé échapper ces 3 points.
Quand ça se répète comme ça, est-ce qu'il peut y avoir du doute qui vraiment s'installe dans le groupe?
Ouais, mais bon, ce que je veux expliquer, c'est que puisque quelquefois c'est l'entraîneur qui est mis en cause, il avait trouvé le système qui était parfait, puisque on mène 2-0, on a des occasions à 11 contre 10 qui auraient dû permettre, et puis après on vient tout remettre en cause parce que c'est vrai, les autres sont revenus, mais l'équipe de Hoffenheim est revenue parce que les joueurs ont baissé un peu de pied, et l'entraîneur n'a rien à voir là-dedans, ou le président, ou voilà. Donc je pense qu'il faut aussi un peu pondérer, et je voudrais dire que à tous ceux qui critiquent, qui quelquefois Bon, je regardais les titres de l'équipe aujourd'hui. Bon, il y avait de quoi se jeter par la fenêtre avant de commencer le match. Donc, si l'objectif c'est de faire en sorte qu'on déjoue, je pense que ça participe effectivement à cette psychose qui fait que même quand on est en position favorable, on a des doutes. Alors, on va progresser, on va continuer de travailler. Je pense que on aura en championnat un match très très important déjà dès samedi. Et puis, il faudra aller grappiller. Je pense à Donetsk, la victoire qui nous permettra de nous qualifier avec certitude. Maintenant, ça aurait pu effectivement se régler un petit peu avant. Mais bon, c'est pas parce que on n'atteint pas l'objectif complètement. Rappelons qu'on est toujours invaincu dans cette Champions League, qu'il faut jeter le manche après la cognée et puis dire que tout est très négatif. Non, il y a plein de choses positives. On n'a pas réussi la fin de ce match. Donc voilà, mais bon, je pense que il faut savoir quelquefois se remettre en cause, mais il faut pas critiquer à tort des situations qui ne sont pas suffisamment réelles pour qu'on puisse dire que tout était mauvais aujourd'hui. Non, ça a été très très bon. Le système en 3-5-2 choisi par Bruno mis en difficulté.
C'est trop long. Merci Jean-Michel. C'est trop long.
Bah ouais, surtout que s'ils ont pas marqué le troisième, c'est de notre faute.
Bien sûr, parce que tu de confiance.
Non mais Pierre aussi, tu fais chier.
Non, moi
c'est ta faute, mon vieux.
Moi je pense qu'il parle de toi.
C'est ta faute aussi. Qu'est-ce que t'as besoin de critiquer tout le temps à cause de toi, Memphis? Il joue pas bien.
Manque de confiance.
C'est ta faute si Memphis rate tout.
Bien sûr. On va se taire d'ailleurs. Bon, allez, on dit plus rien.
On n'a jamais été très très à l'aise dans les calculs, l'analyse de la poule et des points. Ça se confirme. Parce qu'en fait, tu regardes la poule 6-3-2 et tu regardes les matchs, c'est pas si tranquille que ça finalement. Évitons les pronostics.
Ah ouais, il peut encore tout se passer.
Vu la tournure, le dernier match où City n'aurait plus rien à jouer, tu sais, Shakhtar qui fait nul contre Hoffenheim et après ils battent Lyon et c'est Shakhtar qui passe. Donc calmons-nous, les pronostics, je vais arrêter tout de suite. En plus, moi, comme je sais pas compter.
Mais pourquoi tu dis ça par rapport au propos de...
Pendant qu'il parlait, à un moment, je me suis endormi, puis j'avais le groupe sous les yeux avec les calculs, et donc je me suis fait deux, trois calculs, quoi, tu vois.
Ah, quand tu t'endors,
J'ai essayé.
Ah, en fait, il calcule pour s'endormir. Ah, ça l'aide à s'endormir.
Pour me réveiller que j'ai essayé de faire deux, trois calculs.
Alors, t'as pas entendu, mais monsieur Aulas a dit que c'était pas du tout la faute de
Gilles Deschamps.
Ni du président, d'ailleurs, il a dit.
Ni du président, parce qu'il y a eu un manque de réalisme. Là-dessus, je suis un peu d'accord quand même. En premier, si les joueurs avaient été un peu plus réalistes, on n'en parlait même pas. Ceci dit, ça aurait peut-être caché, puisqu'ils pensent qu'ils ont fait un très très bon match, ça aurait sûrement, ce résultat qui aurait pu être positif, aurait caché le reste.
Franchement, je pense qu'ils s'en foutent complètement, hein, que ça cache quoi que ce soit, ils les auraient pris les trois points. Mais
ah bah oui,
il a raison sur un point néanmoins, au bout d'un moment dans un match pareil, même si tu sors tes deux meilleurs joueurs, même si tu fais des erreurs dans tes changements, t'es à 11 contre 10, les mecs qui sont sur le terrain, il suffit... franchement, de serrer un petit peu et d'être un peu réaliste, ça va, ils reviennent pas à 2-2, quoi. Ouais. Merde aussi. Les joueurs ont un peu de responsabilité, quand même.
Anthony est avec nous au 32-16. Anthony attend depuis un petit moment, là. Il était là déjà avant toutes les réactions. Anthony, bonsoir.
Oui, bonsoir. Déjà, j'ai failli m'endormir pendant qu'Olas parlait parce que.
Ah, c'est pour ça que je l'ai coupé, hein. Je me suis permis, hein. T'as vu.
Bonsoir, Anthony.
Ouais, non, mais merci parce qu'en fait, il parle pendant 15 minutes pour répéter 14 000 fois la même chose, en fait. Donc, c'est insupportable. C'est insupportable, ces interviews. Après, pour revenir sur le match, enfin, moi, je trouve surtout ce qui cache, ce qui biaise tout, c'est qu'on doit, enfin, c'est un miracle qu'on soit à 2-0 à la mi-temps. Parce que, on est à 2-0 à la mi-temps, déjà, les 15 premières minutes, on voit pas le jour. Il y a Lopez qui fait un arrêt miraculeux qui change complètement le match, parce que si on est mené dans un match pareil, déjà qu'on voit qu'en menant 2-0 à 1 de plus, on n'arrive pas à le tenir. Alors si en plus on avait été mené, enfin je pense que ça aurait été fini.
Ça c'est et pas après, faux, pour... ça c'est oui.
Et après pour revenir sur Genesio, enfin moi je veux vous parler d'un joueur parce que je veux vous parler spécifiquement de lui, pas parce que je l'aime pas ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'il passe toujours au travers des critiques. C'est Lucas Tozar. Juste pour vous rappeler quelque chose. Le meilleur match qu'on fait de la saison, c'est à City, on le fait avec Diop et Ndombele, les deux, au milieu. Depuis.
Oui, mais Diop, il a disparu, il a plus le droit de jouer, en fait.
Mais oui, mais moi, c'est ça qui me rend fou. C'est que, dans le même temps, lui ne joue plus. Et c'est quoi les performances de Tuzar dans le même temps? Il va jouer contre Paris, il se fait expulser, il nous plombe le match. Il joue contre Dijon, il se fait expulser en deuxième mi-temps, on concède 30 tirs. Les trois autres matchs qu'il joue, il est catastrophique, et ce soir, il est transparent. C'est Koh-Lanta, il a un collier d'immunité, comment ça se passe?
Non mais moi je rejoins un petit peu Anthony parce que, et c'est pour ça que je réclamais notamment la rentrée de Diop par exemple au milieu parce que tu sens que ça manque énormément de maîtrise au milieu de terrain quoi. Ce match là à un moment donné tu dois le calmer, tu dois le maîtriser, c'est toi qui dois dicter le rythme et tu dois pas tomber dans ce match fou. Et effectivement ça en général ça se gagne au milieu de terrain ou en tout cas ça se travaille au milieu de terrain ça.
Anthony, un truc à rajouter?
Non, rien de particulier. Vous faites les pieds carrés tout ça maintenant ou pas?
Un peu plus tard. Vas-y. Si t'as un petit pied carré, on le prend.
Non, pied carré, je mettrais, le boulet, je mettrais Genesio parce que comme d'hab, il subit les choses. Casper, je mets Touzard parce que je me suis rendu compte qu'il était encore sur le terrain à la 85e minute quand il a perdu un ballon. Et l'homme du match, je mets Lopez parce que c'est le seul qui est bon à tous les matchs depuis le début.
Et Memphis, tu l'épargnes.
Memphis Casper.
Mais alors Memphis, je vais te dire pourquoi je l'épargne. Il a vraiment pas été bon, mais je l'épargne juste pour deux raisons. La première, c'est que si Denayer ne touche pas le ballon, il marque un but qui tue le match.
Anthony, je suis obligé de te couper. Pourquoi? Parce que Bruno Genesio est avec Edouard G. C'est parti.
Ce genre de match, il faut savoir faire le break, mettre le troisième. Mais malgré tout, on a, je pense, failli au niveau aussi de la confiance. Parce que lorsqu'on a encaissé le premier but, on a beaucoup trop reculé. On aurait dû continuer à les presser. Et on a reculé, on a beaucoup plus subi. Ils ont usé de longs ballons sur leurs attaquants avec les grands gabarits. Et on a été sur le reculoir alors qu'on aurait dû continuer à les presser comme on l'avait fait.
Pourtant, vous avez demandé de continuer de jouer, même à 2-0, même à 10 contre 11.
Oui, parce que je pense que c'était la meilleure solution pour tuer le match, pour aller mettre ce troisième but qui nous aurait mis à l'abri. Je pense que malgré tout, on a eu les opportunités, mais on les a mal jouées. Et on sait que dans ce genre de match, il faut pas laisser passer les opportunités comme on a eu.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête de vos joueurs quand un petit grain de sable vient gripper la machine?
Non, mais je crois que on est dans une période où on manque un petit peu de confiance. Et lorsqu'il y a un fait de jeu contraire, on devient un petit peu plus fébrile et je pense que c'est ce qui s'est passé sur cette fin de match.
Est-ce que vous le sentiez venir, cette égalisation, ou vous pensiez que ça allait faire?
Non, je pensais qu'on allait mettre le troisième parce qu'on a eu tellement de situations de contre importantes que je pensais qu'on allait mettre le troisième but. Malheureusement, on l'a pas mis, mais on n'a pas su non plus être suffisamment rigoureux pour ne pas encaisser un deuxième but parce que ça vient d'un coup de pied arrêté et on n'est pas au marquage.
Qu'est-ce qui manque à ce moment-là? Un petit peu de hargne, un petit peu de
la concentration, de l'agressivité, puisque c'est pas normal que dans les arrêts de jeu comme ça, il y a un joueur qui soit tout seul au deuxième poteau.
Au niveau de la tactique, ce choix de la défense à 3, dans l'ensemble, quel est votre avis?
Moi, je pense que on a fait plutôt un bon match dans l'ensemble. Je trouve que même si on a eu une entame un peu difficile, mais après, on a réussi à prendre le dessus, on a réussi à presser, à bien utiliser les côtés. On a essayé à concrétiser en marquant deux buts. Malheureusement, comme je vous dis, on n'a pas su enfoncer le clou en marquant ce troisième but qui nous aurait mis à l'abri.
Voilà pour Bruno Genesio et sa réaction ce soir.
Bon, on a eu le retour d'une expression à la mode dans le football, le reculoir.
Oui, parce
être que c'est sur le reculoir.
T'as déjà vu à quoi ça ressemblait, un reculoir?
Tu sais ce que c'est, Pierre, le reculoir? Je viens de faire la petite recherche, donc je fais le malin.
Non, pas du tout.
Alors, c'est une bande de cuir qui entoure la croupe en dessous de la queue d'un cheval quand le cheval tire un chariot, et ça lui permet de retenir la voiture dans les descentes et de l'empêcher de reculer. Donc si on est sur le reculoir, ça l'empêche de reculer, donc on comprend pas. Donc l'expression, elle est pas bonne, alors?
Ça veut dire que t'as le reculoir...
Ça empêche pas le cheval de reculer, plutôt.
Tu vois?
Ça empêche le cheval de reculer.
Ouais, le cheval de reculer, pas la charrette.
Et alors, si t'es sur le reculoir...
Et c'est vrai que t'es collé au reculoir, donc ça veut dire que là, t'es galères parce que t'avances plus. Monsieur.
C'est une expression qui...
Donc c'est bon.
Tu recules au maximum, quoi.
Paysanne, quoi. C'est marrant qu'elle ait traversé les époques pour atterrir dans le foot, parce qu'on l'entend tout le temps dans le foot.
C'est vrai. Bon, bref.
Il y a quelques points au foot, hein.
C'est bien.
2-2 entre Lyon et Hoffenheim.
C'est ça, oui.
2-1 pour United à la Juve. Voilà les deux matchs dont on continue de parler dans l'after jusqu'à minuit. D'autres réactions à suivre peut-être.
Le clou, je vais chercher à enfoncer le clou aussi.
Bon, Simone Rovera.
Ouais, mais pourquoi enfoncer le clou?
David Lorto avec nous dans quelques instants, bien sûr. C'est l'after jusqu'à minuit et tous les autres résultats, vous les trouvez sur rmcsport.fr ou bien sur l'appli RMC Sport. À tout de suite.
RMC Football Show. L'after foot. Gilbert Bribois.
Daniel Rignolo est là, Pierre Ducrot également, et nous accueillons David Lortolari, qui, comme son nom l'indique, est originaire de Lübeck, bien sûr, spécialiste du foot allemand.
Rostock, Gilbert.
David Rostock, pardon. Ça, c'est pas loin, en même temps.
Allô, Freunde, salut à tous.
Salut, David.
Bonsoir.
Salut, David.
Alors, évidemment, vous êtes en 32-16. On va continuer encore quelques minutes de débat du match de Lyon avant de passer à la rencontre entre la Juve et Manchester United, qui était le gros choc de cette soirée. Mon petit David, juste avant que tu prennes la parole, on n'a pas parlé, Pierre et Daniel, du choix initial de Genesio. Tu as évoqué la mode du moment, Daniel. C'est vrai que c'est un peu la mode du moment.
Ah hein. Si, j'en ai parlé. J'ai même dit que d'un coup, on s'est dit qu'effectivement, c'est latérola. C'est latérola qui était fait justement probablement pour jouer dans ce genre de schéma.
Alors, on s'y attendait pas. Certains avant le match disaient, oh, c'est Laurent Blanc contre City, etc., etc.
Pour moi, ce système a été beaucoup plus efficace finalement pour jouer les coups, comme l'a dit Daniel, dans les couloirs et notamment côté gauche où l'association Mendy
d'ailleurs,
avec
Ferland Mendy
souvent,
a beaucoup apporté offensivement.
Petite parenthèse, Ferland Mendy qui a fait un bon match. De ma liste de Deschamps, l'autre Mendy, Benjamin.
Ouais, out aujourd'hui.
Peut-être out, voilà, ou peut-être préservé.
Pas dans le groupe en tout cas.
Pas dans le groupe, voilà. Lucas Hernandez.
Blessé.
Peut-être une surprise demain.
Ouais, ce serait demain, il y a liste déjà.
Bah oui, pour la semaine prochaine.
Ce serait pas fou parce que sinon tu.
Il y a deux nouveaux équipes de France là avec les deux.
Ouais, Pays-Bas France, c'est vendredi.
Eh oui, Daniel, eh oui. Tu vas bosser, tu vas regarder l'équipe de France jouer.
Je préfère les semaines Ligue des Champions, pardonnez-moi.
Ah, mais l'équipe de France, championne du monde, tu
préfères quoi, toi?
Daniel.
Tu préfères les semaines où il y a Ligue des Champions, Europa League ou les semaines où il y a l'équipe de France?
Équipe de France, championne du monde, bien entendu, Daniel.
Moi, j'aime bien les deux.
Le résultat, avant
tout. Franchement.
Bim.
C'est vrai?
Puis bon, tu gagnes plus souvent que l'équipe de France qu'avec le Coupe France en Coupe.
Non, mais vous avez, moi, j'ai posé une question.
Tu veux que je dise la vérité? J'ai horreur de ces périodes. J'adore les tournois internationaux. Voilà. Coupe du Monde, Championnat d'Europe, etc. J'ai horreur de tous les matchs qui sont entre deux.
On est d'accord.
J'adore effectivement les matchs de club après.
Ah oui, bah oui. Moi, je trouve que la saison, c'est fait, il y a que les clubs qui m'intéressent, quoi. Après, c'est le mois de juin, le mois de juillet.
C'est pas intéressant, mais c'est... tu vibres un peu moins, quoi.
Ah non, moi, c'est mes semaines préférées, là, en ce moment, Ligue des Champions, machin, les calculs que je sais pas
Europa
faire.
Europa League, Daniel, le jeudi.
Top, quoi. Ouais, bah oui.
Les jeudis noirs, tu peux te régaler, tout
non,
ça,
mais
t'adores.
Tu vois, on regarde, c'est ouais.
Et puis plus ça avance, plus c'est passionnant.
Match, hein. Moi, j'en regarde plein, c'est top, il y a plein de trucs qui se passent.
Bon, sur le choix tactique de Genesio initial, plus à dire.
Pour moi, peut-être plus marcher offensivement ou apporter des solutions, notamment sur le côté gauche. Et défensivement, alors il y a eu ces 20 premières minutes où ils sont quand même cherchés, les trois derrière, et c'est normal parce que c'était nouveau. Et après, malheureusement, j'ai pas trouvé Lyon qui maîtrisait le jeu. Et donc forcément, quand tu maîtrises pas le jeu, derrière, t'es un petit peu... Enfin, ils ont pris des vagues tout le temps. Donc compliqué de dire si finalement ce système a, en tout cas pour moi, a bien marché. Ou
ouais, c'est exclu pas.
En tout cas, il l'avait bien bossé.
Ouais, non, c'est possible.
Sauf que mine de rien, c'est fait.
T'as
les joueurs pour.
Je suis d'accord. Après, il faut que ton milieu de terrain devant ces trois-là soit bien aussi. C'est important. Parce que quand t'as tes deux côtés qui montent très haut,
normalement de mouiller, c'est pas mal.
Si t'as pas un milieu qui ralentit un peu les choses, c'est compliqué. Tu prends des vagues comme aujourd'hui, Lyon a pris des vagues.
Gérald est avec nous. On va faire une petite évaluation avec Gérald qui sort du stade à Lyon. Gérald, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Salut Gérald.
Salut Gérald.
Est-ce que t'as un taulier, un homme du match à nous citer en préambule? Un cadeau, quoi, tu vois.
Moi, j'ai envie de vous dire que paradoxalement, la défense a été mise à mal pendant un petit moment, mais dans l'absolu, aujourd'hui, la tare de l'équipe, c'est pas la défense, c'est l'organisation générale, mais c'est surtout l'attaque, parce qu'on a mangé quand même 30 occasions en un laps de temps très court, et finalement. C'est là où le bas blesse en fait ce soir, parce qu'on a eu des occasions par milliers et malheureusement on les a pas concrétisées, alors que même un enfant de 4 ans il aurait pu faire 2-3 trucs sympas ce soir.
Je suis d'accord avec toi Gérald, c'est pour ça que j'ai parlé de vagues, parce que quand on parle de vagues en foot, c'est que ça vient de loin, et effectivement le problème il est collectif, il est pas, et c'est pour ça que je dis qu'on a peut-être pas finalement vu suffisamment si ces trois là pouvaient être associés comme ça.
Moi, j'ai juste envie de mettre en valeur le fait que Genesio.
Ah non, pardon.
Genesio, excusez-moi de vous couper. Genesio, qui est souvent la tare aussi des médias et autres, il a trouvé une organisation qui était tout à fait correcte. Son organisation générale, son plan de jeu était tout à fait correct. Simplement, effectivement, ce match-là, on aurait dû le gagner à la 60e minute, pas après. Après, effectivement, qu'on prenne des vagues face à une équipe. Très courageuse, parce que je crois qu'il y a aussi ça qu'il faut mettre en avant, c'est que on a joué contre une équipe.
Bah, ils jouaient leur vie en même temps, Offenheim, hein. Ils perdaient, ils étaient éliminés, hein.
Mais il y a des équipes qui jouent leur vie. On a toutes les semaines dans des compétitions élimination directe, et puis il faut quand même souligner que.
Dis-moi, Gérald.
Deux fois, ils sont revenus au score contre l'OL.
Projetons-nous un peu, là. Depay est allé pleurer il y a quelques jours parce qu'il jouait pas assez. Du coup, d'ailleurs, il a joué. Oui, vous avez remarqué.
Et dans la foulée, il a fait deux mauvais matchs.
Exactement. On fait quoi maintenant avec lui?
Bah alors, de toute façon, moi, je pense qu'on est dans une société de gens responsables. Dans l'absolu.
Malheureusement, non, pas toujours.
On peut l'envisager.
On déresponsabilise énormément. Oui, on devrait l'envisager, oui.
Alors, à partir du moment où on n'est pas bon dans son travail de tous les jours, on doit être effectivement remplacé ou remis en place dans le cadre de ce qu'on a à faire. Bon, de paille, il faut pas oublier que si on en est là au jour d'aujourd'hui, il a quand même une grande responsabilité en termes de résultats l'année dernière. Simplement, je pense qu'il a besoin d'être cadré, il va l'être, de toute façon.
Il l'a été déjà, il l'a été un paquet de fois.
Oui, mais...
Mais son problème, c'est qu'il entre jamais dans le cadre.
Oui, après, effectivement, il est certainement critiquable sur son match, il n'a pas eu beaucoup de réussite, il n'a pas eu non plus beaucoup de génie dans ce qu'il a fait. Simplement, moi, j'ai envie de dire que cette équipe, elle va quand même progresser. Parce que des matchs comme ceux-ci, soit ça vous fout la tête dans l'eau pour un petit moment, surtout s'il y a une élimination derrière. Par contre, s'il continue de s'accrocher, si l'équipe continue de s'accrocher, il va falloir qu'il tire moral de tout ça. Et dans l'absolu, je pense que c'est une équipe qu'on dit pas assez, qu'elle a quand même une moyenne d'âge qui est quand même peu élevée. Il y a beaucoup de joueurs qui sont assez inexpérimentés. Et à mon avis, l'équipe va de toute façon avancer par rapport à ça. Et je crois que c'est ça le plus important peut-être ce soir, c'est de se dire qu'il y a eu deux occasions manquées contre Offenheim, qu'on a encore les armes pour se qualifier, que de plus, l'équipe va devoir évoluer sur le plan mental et aussi sur le plan tactique pour faire des matchs qui soient mieux réalisés dans leur globalité. Et je crois que c'est ça qu'il faut.
Gérald, je voulais qu'on fasse l'évaluation. Alors toi, tu nous fais des considérations générales intéressantes, hein, par ailleurs, mais rapidement, à Cador. Daniel Pierre.
Je sais pas si c'est à Lyon que...
Moi, j'ai bien aimé le match d'Awar quand même. J'ai bien aimé, alors paradoxalement et un peu comme Gérald, j'ai bien aimé Denayer aussi.
Ferland Mendy.
Qui a tenu Ferland Mendy aussi.
Ouais, c'est les mecs, encore une fois, malheureusement, c'est les joueurs défensifs qu'on cite.
Un Kasper.
Gérald, il aurait
j'ai aimé Kramaric, Offenheim,
Nico Schulz. Kramaric, on l'a pas vu jusqu'à ce qu'il marque.
Oui, mais justement.
Moi j'aime bien ce joueur malgré tout ce qu'il fait devant le travail de avec celui qui a le nom un peu l'avant-centre
Joe Linton,
voilà
le Brésilien de
Schulz déjà
non, mais
on
je
l'avait
dire,
vu
il était à Vienne avant.
Schulz déjà
je pensais le champion autrichien
on l'avait vu dans le match aller il avait été bon aussi il y a pas mal de joueurs
Bowman c'est son match aussi mine de rien
d'abord pas bon et ensuite bon.
Ouais, décisif Gérald, pour les maintenir à flot.
Kasper,
Depay, moi.
Depay, on est d'accord.
Bah oui, forcément, oui.
Bon. Ouais. Et un pied carré, non? Un petit pied carré.
Bah, on peut trouver un attaquant qui a loupé beaucoup d'occasions, peut-être, je sais pas, mais... C'est quand t'as 25 occasions comme ça, souvent le pied carré, c'est quand même les mecs qui les loupent.
Kasper, il y aurait peut-être un petit Belfodil ce soir, hein, qui a bien commencé, et puis c'était peut-être son match contre Lyon, et finalement...
Ouais, on l'a pas vu.
Ouais, on l'a pas vu beaucoup.
Pied carré, je sais pas.
Bon, il y en a pour eux, peut s'en mettre pas en mettre. Hein. Gérald, merci en tout cas. Mon petit Lorto, là, un truc à rajouter sur ton Offenheim que tu nous as vendu au mois d'août comme l'équipe surprise de Bundesliga.
Elle reste sur une super série là, Bundesliga.
Les confrères allemands, je parcourais pendant le match et notamment à la mi-temps et surtout après le 2-0 et lorsqu'ils sont à 10 contre 11, un peu les sites principaux des médias. Et ils étaient comme n'importe qui aurait été, c'est-à-dire coup derrière la tête, c'est décisif, c'est définitif, etc. Oui, ok, c'est la pensée générale, mais Nagelsmann avec son équipe derrière, il fait des miracles. C'est le sixième match de l'histoire d'Offenheim en Coupe d'Europe. Il y a toujours pas de victoire à l'extérieur. Hein. Toujours 6 matchs à l'extérieur, toujours pas de victoire. N'empêche que il n'y a pas quand même grand chose, il n'y a pas quand même grand monde qui aurait dit qu'à 0-2 en infériorité numérique, tu peux redresser la situation,
Tu l'as dit, David, à la mi-temps. T'as dit
oui,
que c'était une équipe qui était capable de remonter et qui avait cet état d'esprit de en tout cas tout
alors,
à fait.
Alors, un visionnaire.
J'avais mis ça dans ma poche modestement le Neupap bleu là, c'est juste parce que je me disais que Offenheim pouvait réussir quelque chose.
Que Villas.
Non, alors petite pensée pour Nicolas Villas, petite pensée pour une auditrice fidèle aussi, mais ça veut dire surtout que
c'est une auditrice qui te fournit tes Neupapillons.
Oui, peut-être. Nagelsmann, Daniel l'a dit tout à l'heure, même contre Manchester City, où ils ont perdu de peu au match aller 2-1, ils sont capables de refaire le coup au match retour. Donc je serai Lyon, je ferai les efforts pour essayer de me mettre à l'abri.
Attention, mon petit Lorto, Nagelsmann, et comme Daniel parle mieux allemand que toi, c'est lui qui va traduire. C'est parti.
On était venu à Lyon pour gagner parce qu'on sait qu'on joue beaucoup mieux qu'eux au ballon. Nos joueurs se font des passes entre eux alors qu'en face pas trop quand même. Et puis surtout que j'ai entendu dire que leur entraîneur était en grande difficulté, qu'il maîtrisait pas grand chose dans le vestiaire parce qu'ils ont... Ils ont un président un peu omniprésent là qui vient toujours. Apparemment que c'est lui qui fait la compo. Et puis quand on a vu, après je comprends plus David.
Après je vais reprendre le fil si tu veux. C'est intéressant ce qu'il dit.
C'est pour ça que j'ai senti qu'il valait mieux qu'on arrête de déconner. Non mais je pense qu'il est intéressant Nagelsmann. Vas-y.
Le problème c'est qu'il continue de parler. Non il a parlé de confiance. Il a alors déjà première chose il a dit que sur le, je sais plus c'est sur le deuxième but je crois il a dit on n'a pas défendu. Donc ça, ce sont quand même des mots forts vis-à-vis de ces joueurs, qu'il n'hésite pas à rudoyer. Et il a parlé aussi de la confiance qui s'accumulait dans cette équipe. Et c'est aussi cette confiance-là qui leur a permis, même mené 2-0 et même en infériorité numérique, de
continuer à y croire.
Je voulais pas déconner parce que Nagelsmann, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup et je sentais qu'on était en train de perdre un peu. Il m'a provoqué, mais
c'est une tradition de l'after, les traditions.
Oui, mais.
Bon après on disait en début de saison parce que Daniel m'avait interrogé sur les équipes allemandes qui pouvaient éventuellement continuer la course en Ligue des Champions après l'hiver. Je reste sur ce qu'on avait dit au départ, c'est-à-dire qu'ils vont être peut-être un peu justes et qu'on devrait les retrouver en Ligue Europa et c'est le niveau actuel de cette équipe qui peut faire de belles choses mais qui fait pas non plus un 5-0 contre Lyon.
Merci Lorto, tu peux aller jeter à la poubelle ton nœud papillon.
Merci
dans quelques
Gilbert,
instants Simone Rovera et Julien Laurence pour revenir sur la victoire.
Pape, là, je sais pas là cette
même vous avez
là,
c'est pas le professeur Daniel.
Jouer au garçon de café. Là.
À tout de suite dans l'after.
RMC Football Show. L'after foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, ils sont là. Daniel Riolo, l'auteur du Croc. Et on accueille Simone Rovera. Simone, bonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Salut, ainsi Simone. Que Julien Laurence. Julien, bonsoir à Londres.
Good evening.
Salut.
Les gars, 2-1 pour Manchester United qui a renversé le match face à la Juve ce soir. Mourinho va chambrer au milieu du terrain à la fin du match. Il vient de déclarer « J'ai été insulté pendant 90 minutes, je suis venu pour faire mon travail, j'ai offensé personne, mais j'ai voulu faire ce geste pour me faire entendre un peu plus. Je me suis déplacé pour faire mon travail, pas pour subir des insultes. » Voilà. Et il rajoute « Si c'était à refaire, je ne le referais pas. » Donc sortie de match un peu tendu pour Mourinho.
Qu'on mal allait.
Mais surtout le scénario incroyable parce que la Juve, Simone, menait à 0, a eu de nombreuses occasions et arrive à perdre. Ça lui ressemble
comme
pas.
Comme à l'aller où il n'avait gagné qu'un 0, ouais. Il aurait dû gagner
mais
plus.
Mais même mieux qu'à l'aller. Moi j'ai trouvé bien plus, même plus dans les contrôles, bien plus offensive, bien plus belle aussi dans la façon où gérer les ballons. La Juventus a été une des meilleures matchs en Ligue des Champions de cette saison, peut-être les meilleures sur les quatre qu'elle a joué. 10 minutes finale, blackout. C'est important, je pense, cette défaite pour la Juve parce qu'ils se rendent compte que il faut tenir plus longtemps, qu'ils sont pas toujours dominateurs, que la Ligue des Champions peut-être c'est plus compliqué. Et le capitaine Giorgio Chiellini l'a dit à la fin du match, ça faisait 2-3 matchs qu'on était passé très proche de ça, même en championnat. Donc ça nous fait du bien, ça nous rappelle que il faut jouer jusqu'à la fin avec la même intensité. Et en Italie, il y a déjà un petit peu des procès à Allegri. Parce que c'est pas la première fois que la Juve, avec des changements défensifs dans les dernières minutes, va finir pour perdre un match ou en qualification. On se rappelle que ce que ça a été avec les Bayern il y a 3 ans, avec les Real la saison dernière. Donc c'est vrai que les changements ont fait rentrer Barzagli pour des chignots. Généralement, ça sert à bétonner ces soirs, n'a pas été utile. Et la Juve paye 2-3 petites erreurs, mais elle paye très cher.
C'est 2 coups de pied arrêtés quand même.
Oui, oui.
Ils payent aussi leur manque de réalisme aussi devant. Le match ce soir.
Ils en ont eu 5-6 occasions.
Julien,
mais
vu de Londres.
Incroyable.
C'est le retour d'Ole Gunnar Solskjaer.
Ouais, on a fait jouer le plan Fellaini hein, côté Manchester United. Quand t'es désespéré, bah tu fais entrer Fellaini en jeu à la 79e minute et puis tu balances des longs ballons devant. Et puis on le voit sur le deuxième but hein, à lui tout seul sur le coup franc de Ashley Young, il y a 3 joueurs en marquage sur lui. Forcément, si tu mets 3 joueurs en marquage sur le seul Fellaini, ça veut dire qu'il y a d'autres joueurs qui seront plus libres dans la surface. Forcément, le danger viendra, tu recules forcément un peu plus. Et Manchester en a profité, ils l'ont fait plein de fois avec Fellaini. Ce qui est dommage, je trouve, à la fin, c'est Mourinho, encore une fois, qui ramène tout à lui, qui fait cette provocation contre les supporters et qui, à la fin du match, bah, forcément, on lui pose la question sur ça, alors que ses joueurs ont quand même bataillé pendant 90 minutes, ils s'en sont sortis à la fin, d'accord, ils ont eu beaucoup de réussite, ils méritent peut-être pas de gagner cette rencontre, mais à la fin, il a quand même encore ce besoin de tirer la couverture sur lui.
Oh, la tronche qu'il fait quand il chambre, là, avec la bouche de travers.
C'est incroyable. Ah, c'est un classique, ça.
Ouais, c'est un classique.
Mais c'est un ouf. J'ai vu les sites italiennes donnent même le mérite un tiers de la victoire à Mourinho. C'est Mourinho qui renverse la Juve. Et peut-être, oui, il y a énormément de chances dans tout ça. Mais il fait deux changements. Mata met les coups francs. Fellaini crée cette supériorité numérique, cette supériorité d'homme dans la surface. Et imaginez, il y a trois changements à faire. Si tu regardes les banques, il y a trois changements. Mata, Fellaini, les troisièmes, c'est obligé. C'est Rashford qui va deux doigts de marquer les troisièmes. Donc, comme Roi Mida, il touche trois hommes et ça transforme en or un match qui était...
Ah, mais quand Mourinho fait les trucs bien, faut aussi le dire, hein. Voilà. Si tu dis qu'il a bien géré le match, il a gagné le match aussi à sa façon.
Il a bien géré le match.
Il a eu un dominé sur la 86e.
Il fait les bons changements, c'est ça, c'est un photo, là. Il fait les bons changements.
Je veux bien. Il est chatard à mort.
Il a tiré trois mecs sur un coup franc. Je veux bien. Bon, oui, d'accord. Il fait un 90, ok, d'accord. C'est pas Mourinho qui fait la décision là-dessus.
Dans le jeu, Manchester, c'est toujours si
voilà,
pauvre.
T'as quand même 80 minutes où Manchester n'existe pas, et encore 80, peut-être gentil dans le jeu. Et un entraîneur, c'est peut-être là où il doit, à mon avis, un peu plus montrer sa patte, c'est de faire jouer ton équipe, c'est pas de faire deux changements et sur les deux changements.
Moi, j'étais pas
t'en
un génie.
Un coup franc, d'accord.
J'ai dit qu'il est chanceux.
Qui est dans la surface sur un coup franc excentré, super.
Et que les trois changements sont presque obligés parce que si tu regardes son banc, il peut faire rentrer que ces trois joueurs là.
Et lui après,
donc, il a de la chance.
À chaque fois qu'il gagne, il fait le show, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et Simone, tu le sais, puisque t'as trouvé ça un petit peu drôle aussi. En tant que intériste confirmé, Mourinho, il fallait qu'il se paye la Juve, et il l'a fait, voilà.
Mais je suis d'accord avec Julien.
Il a envoyé un petit message aux supporters de l'Inter qui ce soir
c'est toujours
contents,
c'est toujours à tirer le truc à ce moment-là.
Un mot de Pogba, Julien, et de son match.
C'est toujours pareil, il y a des bonnes choses, mais quand ils souffrent, quand ils sont dominés comme ça, Manchester United, il est transparent parce que il peut pas s'imposer dans une équipe qui est dominée. Il a très peu le ballon. Quand il l'a, il y a pas forcément beaucoup de solutions devant lui. Il fait quelques bonnes choses, il y a quelques bons décalages, notamment une sorte de talonnade pour Alexis Sanchez en deuxième période, mais c'est pas assez consistant, c'est pas assez constant, c'est pas assez décisif non plus. Mais dans une équipe, comme on l'a dit, hein, qui a été dominée pendant 86 minutes, c'était toujours plus compliqué. Mais il est présent sur le deuxième but. Il force le but contre son camp d'Alexandro, de Chiellini. Et voilà, et c'est tout ce qu'on retiendra sur ce match-là de Paul Pogba.
Bon, qu'est-ce que vous voulez rajouter d'autre?
Paul Pogba, on rappellera aussi son entrée sur le terrain avant les matchs.
Les chants du public.
Les chants des supporters de la Juve. Donc, il a laissé un très bon souvenir.
De Naples qui tweet ce soir.
C'est extraordinaire les tweets.
Petite tweet du club de Naples qui dit: Naples est la dernière équipe italienne invaincue cette année en Ligue des Champions.
Juste Forza à la fin du match, les tweets du Champrage du Napoli. Bon, si ça a vécu bien.
Ah bah Naples, ils font la fête, hein, que la Juve perd en Ligue des Champions, c'est la fête à l'Inter ce soir, c'est la fête à Naples. C'est la fête dans beaucoup de
surtout parce que si la Juve s'est qualifiée ce soir, les deux prochains matchs, elle aurait pu faire tourner, s'est concentrée sur les championnats. Quand même, ça montre qu'il y a un vrai intérêt à voir la Juve jouer la Ligue des Champions en fond. C'est Valence le prochain match. C'est pas un match très simple. Bah, tu peux pas faire
ils ont
tourner.
Un peu d'avance quand même, non?
Oui, mais tu dois quand même faire des points face à Valence. Si t'es déjà qualifié ce soir,
sinon tu aurais pu faire jouer contre les jeunes garçons.
La Primavera. On l'appelle Primavera, l'équipe suisse, mais non.
Tu veux nous dire également un mot de City, Julien, qui a complètement éclaté le Shakhtar. Je sais pas s'il y a un truc à dire d'ailleurs, parce que c'est totalement facile.
La balade à 4 jours du derby contre Manchester United, justement, ils se sont baladés, voilà. Ils se sont fait très plaisir. Triplé pour Gabriel Jesus, Agüero était sur le banc. On a encore vu un très bon Bernardo Silva, un très bon Riyad Mahrez aussi, très présent, qui a marqué du pied droit, ce qui est assez rare pour lui, mais voilà, une balade tranquille, ils auraient pu marquer 10 buts. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, juste pour faire vite, c'est le penalty accordé à Raheem Sterling. Incroyable, où il tape son pied dans l'herbe. Il n'y a aucun contact avec Matviyenko, le défenseur du Shakhtar. Et pourtant, Victor Kassai, qui est un arbitre très expérimenté, pourtant, donne un penalty incroyable. Il y a quand même 5 arbitres sur le terrain. Ils sont incapables de voir que Raheem Sterling tire dans l'herbe.
Bah voilà,
incroyable.
C'est comme ça. Bon, de toute façon, ça aurait fait peut-être 5-0 plutôt que 6, hein, donc ça aurait pas changé.
Oui, voilà, mais bon, à ce moment-là, il y avait 1-0 seulement pour City. Et c'est le pénalty le plus ridicule de l'histoire des pénaltys, quoi.
C'est clair. Tiens, je vous garde deux minutes, il nous reste deux minutes, parce que Julien, t'as bien connu Nicolas Anelka. Et ben, il devient un conseiller au centre de formation de Lille. Je le signale, il va s'occuper des jeunes attaquants.
Ah, que les attaquants?
Ouais. Ouais.
Ah, d'accord.
On va faire des séances spécifiques attaquants.
Très bien.
Je sais pas comment il a atterri à Lille, hein. Je sais pas si...
Il connaît très bien avec Gérard Lopez.
Chez Lopez, ouais.
Voilà. Bon, ben...
Donc, ils ont dû faire du business.
Peut-être.
Bon, pourquoi pas.
Il y a une époque, Walter Samuel s'occupait de la phase défensive à l'Inter, il y a deux ans.
Oui, mais lui, il s'occupe des jeunes, mais que des attaquants.
Ça se fait partout dans les formations.
Souvent des anciens attaquants qui
s'occupent de faire des séances spécifiques dans la semaine.
Très bien.
Et souvent, ça permet d'ailleurs de prendre, tu vois, un peu les U17, les U19 ensemble, de mélanger un peu les catégories et de faire travailler les mecs ensemble pour... C'est pas mal.
Il serait bon en coach, Anelka. Il l'a été rapidement en Chine, rappelez-vous.
J'en sais rien du tout, moi. Je l'ai connu comme joueur, mais de là à dire, Nico, ça fait longtemps que je l'ai pas vu en plus, mais de là à dire, est-ce qu'il va transmettre ça, je sais pas.
T'étais là quand il mettait des trucs en moumoute sans manche avec
quand il revient au PSG, quand il signe au PSG, ouais.
C'est du yak. Magnifique.
T'es du yak, comme Paul.
Du yak, ouais. Avec Julien Laurent, c'était là aussi, je crois.
Je sais pas, Daniel.
Et puis Ribolovlev inculpé. Ribolovlev inculpé dans l'affaire qui l'oppose donc au marchand d'art Yves Bouvier. Il a été laissé libre aujourd'hui, mais placé sous contrôle judiciaire. Donc affaire qui n'a rien à voir avec le club de Monaco, je le rappelle, mais bon, qui empoisonne la vie du club quand même indirectement, puisque il y a des rumeurs qui font état, pourquoi pas, d'une vente du club si jamais les choses tournaient mal pour Ribolovlev. Voilà les infos.
Vente du club qui ne dépendra que de lui. Hein. Personne ne peut le forcer.
Julien, un truc à rajouter, Simonet? Non, vous avez fait le tour?
Non, la Roma qui gagne. La Roma qui gagne.
Bien sûr,
la Roma qui gagne.
Tu vas en placer 4. A priori.
Ouais. Si Naples ne fait pas des...
Ouais, c'est peut-être
le
plus indécis, quoi.
Ah ouais, Tottenham
devant l'Inter. Ça va être chaud quand même, hein.
Ça dépend du Barça. Si Barça fait les jobs la dernière journée, s'il va pas mettre les poussins face à Tottenham, je vois pas Tottenham.
Celui-là, il peut être un peu,
c'est
vrai. Tottenham joue l'Inter et le Barça.
C'est fini pour ce soir. Demain, attention, c'est Europa League. Demain, il est possible qu'un club français gagne. On ne sait jamais sur un malentendu. Donc, dans l'after demain soir, on analysera tout ça.
Et sûr,
on vous attend. Demain, il y a Lazio Marseille. Et si c'était la surprise?
Bordeaux Zénith.
Et Bordeaux Zénith avec Pierre Ducrot. Et Mitroglou demain qui veut mettre un doublé à la Lazio. T'y crois, Simonet?
Oui. Parce que si Manchester a battu la Juve,
Marseille peut battre la Lazio. Évidemment.
Merci Julien, merci Simonet, et à demain soir en after, on sera là aux alentours de 23h, bien sûr.
RMC Football Show, l'After Foot.